7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.
Dans ce grand kawa, on commence par un kawa brûlant au cœur de l'actu internationale. Je vais décrypter la position française dans le conflit au Proche-Orient face au bombardement incessant de l'armée israélienne à Gaza. Tu t'en doutes, je vais pas être tendre avec notre cher président. Puis ensuite, kawa sans filtre avec un membre du gouvernement, oui, l'homme à Matignon qui vaut 17 millions. Alors, pourquoi 17 millions? On ne sait pas sa valeur marchande de joueur de foot. J'ai déjà vu jouer. Non, il ne vaut pas 17 millions d'euros. C'est le nombre de vues qu'il a réalisé sur TikTok. Mathieu Mocor, vous ne le connaissez peut-être pas, mais depuis sa vidéo virale, tous les jeunes le reconnaissent et tapent le selfie avec lui. On en reparlera dans l'interview, mais sa vidéo, en un mot, c'est une mini chorégraphie, en fait, un petit mouvement d'épaule comme ça, sur le son Doggy d'Aya Nakamura. C'est une vidéo de soutien, alors qu'elle était la cible de la droite et de l'extrême droite, qui ne souhaitait pas qu'elle chante du Edith Piaf au JO. Et magie ou folie des réseaux sociaux, les compteurs s'affolent. J'avais jamais vu ça pour un politique. Plus de 17 millions de vues, c'est un truc de fou, simplement sur TikTok. Si on cumule avec d'autres réseaux sociaux, on approche les 20 millions de vues. Waouh! On parlera pas que de ça avec Mathieu Mocor. Il est délégué interministériel à la jeunesse. J'ai donc plein de questions à lui poser, car les jeunes et Macron en ce moment, c'est pas la folie, hein, on va pas se cacher, hein, voilà. Alors, ça va déjà, question traditionnelle, votre café, vous le prenez comment, Mathieu Mocor?
Je le prends serré. Très serré. Et tôt le matin.
Oula! Je sens que, bon. Alors, on commence par l'international avec cette question. À quoi joue le président français Emmanuel Macron, sur la scène internationale et surtout dans le conflit au Proche-Orient? Cette question, elle s'est imposée avant même la tentative de riposte iranienne. Devant le drame humanitaire à Gaza, Emmanuel Macron a été fuyant, pour être poli. Certains diraient tactique. Cyniques, les plus critiques ont même pu glisser le mot lâche. Alors oui, car comment rester de marbre face au bilan humain lourd, historiquement lourd, d'une riposte qui a pris le visage d'une vengeance aveugle? Comment ne pas être abattu devant ce territoire de la mort, de la famine, de l'agonie qui est devenu Gaza? Les faits sont terrifiants. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, estime que les estimations du Hamas, 30 000 morts, sont en deçà de la réalité, n'en déplaise à la propagande de l'armée la plus morale du monde. Vous avez compris que j'ai mis des guillemets. Pour lui, 60 000 morts serait un décompte plus réaliste. 60 000 morts, avec un nombre d'enfants tués qui devraient, chaque matin, en nous réveillant, nous glacer le sang et nous plonger dans une tristesse collective, unanime, universelle. Pourtant, malgré les images effroyables, malgré les constats sans appel des ONG, le risque de génocide soulevé par l'ONU, la diplomatie française et son chef suprême ont mis du temps à réagir. Il y a d'abord eu une prise de parole incompréhensible du président Emmanuel Macron. Il a proposé au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'élargir les attaques de la coalition combattant Daesh au Hamas. Cette comparaison État islamique Hamas au Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, eh bien, elle a été jugée consternante et imaginée dans l'improvisation. Les ambassadeurs français, c'est rarissime, hein, ont même envoyé une note au Quai d'Orsay pour alerter contre une politique étrangère déséquilibrée en faveur d'Israël. C'est inédit, ce règlement de compte quasiment public. Même le gouvernement israélien avait trouvé excessive cette proposition zélée du président français et avait plus souligné la dimension symbolique de cette offre. Dans le monde arabe, Emmanuel Macron a fait perdre à la France son influence historique. Ces derniers jours, il a tenté de rattraper le coup en co-signant une tribune avec les présidents égyptiens et jordaniens pour un cessez-le-feu, mais comme on dit de manière familière, il est un peu déjà grillé. Son attitude d'alignement, ou au mieux de mutisme à propos du va-t-en-guerre israélien, n'est pas passée. Exemple, lors de la dernière COP à Dubaï, il a essuyé un vent diplomatique humiliant. Aucun dirigeant des pays arabes n'a voulu s'asseoir autour de la table pour une réunion d'initiative française. Alors, pas sûr que le rôle de premier rang joué par la France dans la grave crise Iran-Israël ne lui redonne du crédit au Moyen-Orient. La France a été citée par le porte-parole militaire en chef d'Israël comme l'une des puissances ayant apporté une importante contribution dans la neutralisation des drones iraniens. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit retrouver du crédit et une parole plus écoutée dans le monde arabe et au Moyen-Orient. L'enjeu dépasse largement les clivages traditionnels sur ce conflit devenu ancestral. Retrouver une place pour dialoguer avec toutes les parties et peut-être empêcher une guerre mondiale. Mathieu Mocor, vous êtes délégué interministériel à la jeunesse. Mais là, j'interroge le représentant du gouvernement de l'exécutif. Réaction déjà sur la situation volcanique actuelle. Le monde retient son souffle. Alors, comment ça se passe au sommet d'État? Est-ce qu'on a peur ou pas que ça dégénère en guerre mondiale?
On est évidemment très vigilant. La position a été affirmée dès hier, à la fois par le président de la République, par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. D'abord, une condamnation très ferme de l'attaque qu'a subi Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Ensuite, une pleine solidarité exprimée avec le peuple israélien dans ce moment. Et la France, selon les termes du ministre des Affaires étrangères hier, a pris ses responsabilités, vous l'avez dit, en contribuant à l'intersection des vecteurs qui se dirigeaient vers le territoire israélien. Et puis, le troisième grand message, c'est un appel évidemment à la retenue pour éviter toute escalade du conflit. La question n'est pas de savoir si on a peur ou pas, la question est de savoir ce qu'on fait en termes diplomatiques. Le G7 s'est réuni hier, a confirmé et souligné ses propos du président de la République. Et par ailleurs, je le précise aussi, on a une grande préoccupation qui est d'assurer la sécurité, bien sûr, des ressortissants français qui se trouvent à la fois en Israël et en Iran. C'est une de nos préoccupations principales depuis quelques jours maintenant.
Alors vous n'allez pas médire ou mal parler sur votre patron, mais dans le monde arabe, comme je viens de le dire, Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur du drame, c'est en tout cas ce qui est ressenti, qui se déroule sous nos yeux à Gaza. On a l'impression que le en même temps sur la scène internationale, ça ne marche pas. Voilà, il donne un gage par-ci, un gage par-là, ça brouille un peu le message. C'est-à-dire même les Israéliens parfois l'ont trouvé un peu moraliste, et dans les pays arabes, on l'a trouvé un peu mutique.
Alors évidemment, je suis pas sourd aux critiques qui peuvent être exprimées ici ou là et qui l'ont notamment été à l'automne dernier. Ensuite, et sans particulièrement prendre position pour le président de la République, moi je trouve que la critique est un peu sévère. Je me souviens que le 24 octobre dernier, quand les propos ont été tenus sur un élargissement possible de la coalition contre Daesh au Hamas, le même jour, le président de la République était aux côtés du président de l'autorité palestinienne.
C'est exactement ça. C'est presque dans le même temps. Quoi.
Oui, mais avec des propos déjà très clairs à ce moment-là sur la catastrophe humanitaire qui était déjà en cours à Gaza. J'ai le souvenir aussi du 10 novembre dernier d'une interview à la BBC où il était appelé très clairement à un cessez-le-feu et à l'arrêt des bombardements.
D'ailleurs, ça avait mis en colère le ministre de la Défense d'Israël.
Oui, qui ensuite a eu d'autres raisons d'être mis en colère, y compris parfois par le président des États-Unis lui-même. Et d'ailleurs, la position française exprimée dès le début du mois de novembre a été suivie collectivement, enfin, à l'ONU le 25 mars dernier. Maintenant, notre défi collectif, c'est que ça finisse par s'appliquer, évidemment, pour mettre un terme à ces souffrances intolérables qui sont aujourd'hui le quotidien des populations à Gaza.
Alors vous adressez beaucoup à la jeunesse, notamment sur les réseaux sociaux, pas que, mais pas mal. Vous avez compris que c'était le média pour réussir à toucher peut-être une partie des citoyens ou des bientôt citoyens quand ils sont mineurs sur des sujets importants. Comment expliquer aux jeunes de manière apaisée ce conflit? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut en parler de manière pédagogique et apaisée? Et comment? Si vous avez la recette, moi je suis intéressé en tant que journaliste.
Alors je ne sais pas si j'ai la recette miracle, mais je pense que d'abord il faut rappeler évidemment les origines de ce conflit, des origines qui nous concernent.
C'est vrai que... Alors là, Je vous interromps, après je vous laisse, c'est très important parce qu'on a presque l'impression que ça a commencé le 7 octobre, alors qu'il faut expliquer peut-être qu'il y a quand même des origines un peu plus profondes, voilà, et
oui,
géopolitiques.
Et puis c'est un conflit qui a démarré après l'installation légitime d'un État juif sur ce territoire, suite à notamment un holocauste qui a eu lieu sur le territoire européen. Et donc par définition, c'est un conflit qui engage notre responsabilité historique, et c'est ensuite un conflit qui nous met face à la question la plus redoutable qu'on ait en matière internationale, c'est est-ce que dans le présent on peut être plus grand que l'histoire. Quand on regarde l'histoire, chaque camp entre guillemets a une légitimité historique à être sur ce territoire, chaque camp a une légitimité émotionnel à revendiquer un ressentiment par rapport à des souffrances passées ou actuelles. Et la grande question qui se pose dans ce genre de conflit, qui est évidemment plus facile à exprimer quand on est dans un micro en toute sécurité à Charenton-le-Pont, près de Paris, c'est que il faut qu'on arrive à dépasser ça, ces conflits de légitimité historique et ces ressentis liés aux souffrances actuelles. Et c'est ça que j'aurais envie d'expliquer à un jeune que j'aurais en face de moi si c'était le cas sur ce conflit.
Vous
vous regardez, j'ai l'impression d'être jeune. Ça, c'est sympa. Autre sujet inquiétant, j'essaie de remettre un peu de sourire, parce que c'est vrai qu'on a comme des thématiques, et c'est l'actu qu'il veut, des thématiques assez tendues. C'est, cette violence décomplexée chez les jeunes, de nombreux faits divers récents ont impliqué des mineurs, des ados, qui semblent désinhibés et en proie à une brutalité qu'on avait rarement connue, des lynchages finissant parfois par la mort, des expéditions punitives, avec souvent un rôle catalyseur justement des réseaux sociaux. C'est une fatalité, on peut rien faire, ça y est, on est rentré dans une nouvelle ère, on a une génération plus violente qu'avant.
On a une génération en tout cas qui parfois, pour une minorité, une extrême minorité d'entre elles, peut faire preuve d'une violence qu'on peut qualifier de désinhibée. On l'a vu sur tous les faits divers et les drames de ces derniers jours. On peut passer des heures à essayer d'analyser pour savoir si c'est plus fort que par le passé ou non. Moi, j'ai le souvenir dans les livres d'histoire pas si anciens qu'on évoquait parfois la violence des blousons noirs, par exemple, dans les années 60-70. Quand j'étais plus petit, il y avait régulièrement des rixes qui se passaient. J'ai notamment souvenir en janvier 2001 d'un affrontement très violent dans le quartier de la Défense à Paris. Mais peu importe. Le point, c'est que de toute façon, toute violence est insupportable et que la réalité collective qui implique ce gouvernement aujourd'hui, mais tous les gouvernements depuis 20 à 25 ans, c'est qu'on n'arrive pas à mettre fin à ces spirales de violence qui parfois peuvent exister. Et ça appelle à une double réponse, à la fois évidemment le volet punition, il doit être présent. Et vous avez remarqué que dans les affaires qui ont malheureusement touché ces derniers jours, à chaque fois il y a des mises en examen très rapides qui ont été prononcées par la justice. Et puis surtout le volet prévention, qui est évidemment essentiel en la matière.
Et oui, Mathieu Maucor, mon invité, délégué interministériel à la jeunesse, il dépend de Matignon et de Gabriel Attal, macroniste de la première heure, on peut le dire. Alors votre visage est désormais connu de tous les ados qui ont TikTok, car vous avez explosé les compteurs, vous avez réalisé une vidéo TikTok de quelques secondes sur ce son.
J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais j'les connais même pas. Tu veux dougi 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 dougi.
On reconnaît Aya Nakamura, vous êtes filmé en roulant l'épaule comme ça, et là, incroyable, plus de 17 millions de vues, voilà. Et alors là, fait vraiment incroyable, Kim, un membre du gouvernement liké près de 2 millions de fois, j'ai pas vu ça depuis je sais pas qui.
Je sais pas si c'est monétisé, mais si c'est le cas, ça ramène à peu près 20 000 euros. Hein.
Bah, t'imagines si ça fait un like, une voix là pour les Européens.
Il fait plus que mes clips, ça m'a pas énervé quand même.
Non, mais c'est fou. Hein. Et sur tous les réseaux, ça fait je crois près de 20 millions, comme on dit tout à l'heure. Alors cette vidéo, elle a cartonné, mais elle s'inscrit dans un contexte. C'est pas qu'une petite vidéo comme ça, elle veut dire quelque chose. Racontez-nous, Mathieu Maucor, c'est quoi cette vidéo? Pourquoi vous l'avez faite?
Bon, la fête, je dis on parce que c'est une suggestion de ma stagiaire Mathilde et de mon apprenti.
Tu peux faire une promotion?
Oui, oui, mais je le dis parce que c'est aussi symbolique du fait que quand on fait confiance aux plus jeunes et qu'on leur laisse la main, bah parfois ça donne ce que vous appelez un coup de communication réussi. Mais de manière plus générale, je pense que c'est une philosophie dont on devrait s'inspirer très régulièrement. Et puis c'est tombé à un moment où je pense qu'il y avait une forme de ras-le-bol devant tous les propos qu'on pouvait entendre sur l'idée qu'Aya Nakamura puisse intervenir au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous savez, pas mal de responsables politiques, parfois bien sous tous abords, qui essayaient de trouver tous les prétextes successifs de dire qu'Aya Nakamura n'avait pas forcément la légitimité d'intervenir au moment de cette cérémonie d'ouverture, alors qu'on parle là de la plus grande artiste francophone, en tout cas en termes d'écoute, aujourd'hui. Et il y avait une forme de ras-le-bol que j'avais envie d'exprimer sur ce racisme un peu paresseux, un peu sournois, qui trop souvent s'exprime facilement dans notre société aujourd'hui.
Oui, c'est courageux de dire le mot racisme, parce que bon, il y a l'extrême droite, hein, évidemment, quand il y a une faille, il s'infiltre. Mais il y a aussi des responsables de droite. On a le deuxième homme de l'État, hein, le président du Sénat, Gérard Larcher, alors là, qui nous a fait, je sais pas, une petite dissertation sur la levrette, hein, j'ai jamais vu ça, moi, et qui flirtait avec des positions racistes et avec cette idée, bah, que quelque part, on avait le sentiment, comme vous l'avez dit, que on cherchait des prétextes, hein, une mauvaise maîtrise de la langue française, et qu'en réalité, derrière, c'était peut-être les origines maliennes de Aya Nakamura qui posaient problème. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai l'impression que c'est le sentiment que vous avez eu parce que vous avez fait cette vidéo.
Ouais, surtout, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on devait réapprendre ce que c'était, en fait, que d'être ensemble. Ce que c'était, vous savez, que ce mot de la devise nationale, fraternité, dont on a un peu oublié la signification. La fraternité, ça veut dire qu'il faut être capable de se confronter à la différence. Quand on se confronte à la différence, forcément, on peut être dérangé. On peut être dérangé légitimement par le style d'Aya Nakamura, les paroles d'Aya Nakamura, de la même manière que certaines personnes sont dérangées par le style ou les paroles que peuvent utiliser Jean-Jacques Goldman ou autres artistes français, entre guillemets, historiques. Mais par contre, en fait, c'est juste ça, être ensemble, c'est savoir se confronter à cette différence. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne collectivement, les citoyens français de manière générale et certains responsables politiques en particulier.
Elle vous a contacté ou pas, Aya Nakamura ?
Alors non, mais pour tout vous dire, ça ne me génère pas une tristesse particulière, parce que l'objectif était vraiment pas de politiser Aya Nakamura, au contraire. Mais évidemment que si jamais elle souhaite le faire, on le fera avec
un petit buzz.
On le fera avec
elle
plaisir.
Elle peut venir ici hein, sur Beurre
ouais,
FM.
Mais
on serait le théâtre de ce nouveau buzz.
Pour tous les, fans d'Aya Nakamura, c'est que le son sur lequel la vidéo a été faite, qui s'appelle donc Dougie, avait fuité en fait en 2019. Seul un extrait avait fuité, et Aya Nakamura, en réponse en partie au buzz et puis à la polémique, a souhaité sortir le son en entier il y a une dizaine de jours. Donc voilà, des clins d'œil réciproques existent, mais pas de prise de contact formelle à ce stade.
Bon allez, je vais être un peu moins agréable, vous connaissez hein, c'est trop facile là c'est trop tapis rouge. Vous êtes le monsieur jeune du gouvernement, mais la jeunesse et le président Macron, ça va pas fort. Hein. Comme ça, je prends des sujets des étudiants qui font la queue aux distributions alimentaires. Des sujets qui tiennent à cœur la jeunesse, comme l'environnement, que le gouvernement n'a pas assez porté. Pas de politique ambitieuse, moi je dirais, tournée vers la jeunesse. Le fiasco Parcoursup, le débat inutile sur l'uniforme à l'école. Bon, on fait quoi pour la jeunesse, là hein?
Bon, on fait d'abord.
J'avoue, j'ai fait un tableau un peu noir.
Oui, alors je peux faire un tableau dans l'autre ouais, sens.
Allez, sortez votre Excel.
Même
allez.
Si c'est évidemment mon rôle, mais simplement juste pour donner des exemples très concrets d'actions jeunes qui sont menées depuis plusieurs mois maintenant, et avant même que j'arrive, si je suis tout à fait honnête, les préservatifs gratuits pour les moins de 25 ans, ça date d'il y a à peine une année. Le pass culture dont bénéficient tous les jeunes aujourd'hui à l'âge de 18 ans, 300 euros et même un peu plus les années précédentes. Depuis le 1er janvier, quand vous êtes jeune, vous pouvez passer le permis de conduire non plus à 18 ans, mais à 17 ans. C'est une vraie innovation qui aide notamment ceux qui sont dans les zones éloignées. On a un accès gratuit à 12 sessions de psychologue qui va être ouvert à partir du mois de juin. Les stages en lycée professionnel sont désormais rémunérés. La liste est longue. Après, je suis pas sourd ou aveugle à nouveau à ce qui aux critiques qui peuvent être formulées. Il y a toujours un défi pour les gouvernements en place de réussir à garder le contact et à garder l'adhésion de la jeunesse. Et quand on est jeune, on est naturellement plus porté à être un peu plus révolutionnaire ou contestataire que quand on vieillit. C'est un défi de tous instants. Moi, mon enjeu, c'est pas que les jeunes votent particulièrement pour Emmanuel Macron ou Gabriel.
Parce que sur les européennes, là, vous êtes presque troisième.
Mon enjeu, c'est avant tout que chaque jeune en France ait conscience qu'on est en train d'essayer de se bouger vraiment pour eux. La liste que j'ai citée l'illustre. Et que ensuite, chacun décide.
Mais à l'heure où Bruno Le Maire cherche partout, je crois, 10 milliards pour enflouer les caisses de l'État, est-ce qu'on arrive à être comme ça crédible avec ces propositions? Est-ce que vous arrivez à récupérer certains crédits? Là, on sent. Alors, elles sont hyper intéressantes, hein, vos mesures, mais on sent que c'est des petits pansements pour colmater la crise économique et sociale que traverse la jeunesse. Ouais.
On a fait plus que des pansements. Hein. Je veux rappeler que évidemment il y a des souffrances étudiantes qui existent aujourd'hui, mais l'an dernier il y a eu une revalorisation des bourses étudiantes de 15% en moyenne. C'est le minima social qui a été le plus revalorisé l'an dernier, et ça n'a pas du tout été remis en cause cette année. Autre exemple, on a annoncé, et ça coûte évidemment des millions d'euros, que cet été, tous les jeunes en France de moins de 27 ans pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, au mois de juillet et au mois d'août, de ce qu'on appelle le passerail, c'est-à-dire un forfait train qui va leur permettre de prendre des TER, des intercités, des trains de nuit en illimité en juillet et en août pour 49 euros. C'est un vrai investissement, c'est un choix qui est fait, et c'est un choix qui est assumé. Je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi cet accès gratuit aux sessions de psychologues pour les jeunes qui en ont besoin. Là encore, c'est un investissement qui est fait et qui est très important. Donc on sait prioriser les sujets jeunes quand les besoins sont là.
Et justement, pour combler le fossé de la jeunesse, entre la jeunesse et les responsables politiques, est-ce qu'il ne faudrait pas que les jeunes vote plus tôt. Est-ce que c'est pas trop tard, 18 ans? Est-ce que c'est à l'heure du jour un vote, je sais pas, 16, 17 ans? C'est vrai que c'est un sujet comme ça qu'on ressort des cartons, qu'on remet.
Alors, moi, je suis favorable à un principe général sur les jeunes, qui est que quand on n'a pas de bonne raison de refuser un droit ou une confiance dans la jeunesse, il faut qu'on prenne l'action. C'est pour ça que, par exemple, sur le permis de conduire, on a abaissé l'âge de 18 à 17 ans, parce que quand on regardait ce qui se faisait à l'étranger, en Irlande, au Royaume-Uni, en Autriche, on voyait qu'il y avait des chiffres de sécurité routière qui étaient les mêmes à 17 et à 18 ans. C'était pas le cas à 16 ans. C'est pour ça qu'on a abaissé le chiffre à 17 ans. Sur le vote, moi, j'y suis favorable à un abaissement à 17 ans, par exemple. Et on peut tout à fait imaginer un schéma dans lequel on pourrait tester la chose, par exemple, aux élections municipales. Vous savez, on est tous un peu experts de notre ville. Et pour le coup, l'expertise n'attend pas vraiment le nombre des années. C'est un processus qui doit s'accompagner d'un renforcement de l'enseignement moral et civique. Vous savez, ces cours d'éducation civique qu'on a tous eu ou pas vraiment eu au collège ou au lycée. Mais je pense que ce signal-là est hyper important dans une société qui vieillit et dont la démographie électorale vieillit. Juste un chiffre en la matière. On est passé de la fin des années 70 à aujourd'hui à un âge moyen de l'électeur français qui était de 44 ans à maintenant 51 ans. Et ça va aller encore.
Et cette idée, cette expérimentation, vous allez essayer de la soumettre à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal ou pas? Ils sont chauds.
Vous savez, moi, je soumets beaucoup de choses.
Il y a un Premier ministre qui est jeune, qui est quasiment imberbe. Il va peut-être non.
Oui. Alors, vous savez, moi, mon travail, c'est de soumettre beaucoup d'idées et leur boulot, c'est évidemment d'arbitrer avec tout le champ de contraintes, y compris politique, hein, puisque un changement de droit de vote, d'âge de vote pour les jeunes, c'est une réforme constitutionnelle qui suppose d'avoir une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, évidemment, c'est pas simple. Mais si vous me demandez mon avis personnel, pour le coup, symboliquement, je pense que ce serait un signal absolument bienvenu.
Kim, on a presque un scoop là. Hein. On a presque un scoop.
J'entends ça.
Eh oui. Allez, on va terminer avec peut-être un. Oh, je sais pas si c'est la légèreté, parce que parfois, moi, ils me font mal au cœur. Passion OM. Eh oui, parce que j'ai vu, moi, les stories, évidemment, j'ai bossé quand même. J'ai vu les stories de monsieur le délégué interministériel à la jeunesse. Eh oui. Et vous êtes souvent à Marseille, au stade Vélodrome. Je crois que vous. J'ai lu un papier dans Le Monde où il était dans le carré VIP des South Winners avec Redouane Bougueraba.
Ah oui, quand même.
Ouais, il était ici. Ouais, et alors, c'est quoi ça? Vous êtes supporter de l'OM?
Je suis là où ça chante et ça danse en tribune. Et ça peut être la tribune présidentielle, mais ça peut aussi être de manière plus anonyme les virages de supporters à Marseille.
Avec le turbulent Rachid Zerwal.
Oui, mais
qu'on salue, je crois qu'il parfois il écoute.
Vous savez, le Vélodrome, c'est une mini-société, c'est Marseille en miniature, pas tant en miniature que ça, parce qu'il y a quand même 60 000 personnes dans le stade, et en fait, dans ces virages de supporters, vous retrouvez toutes les strates de la société marseillaise.
C'est vrai.
Vous retrouvez le minot de 12 ans, la maman de 50 ans, la grand-mère de 75 ans.
C'est un peu moins bourgeois que le Parc des Princes, hein.
Eh ben oui, et c'est pour ça que j'aime Marseille, et c'est pour ça que j'aime l'OM, pour être tout à fait transparent avec vous. C'est quand même une des rares villes en France qui a su garder cette âme populaire au sens noble du terme, où on arrive encore à se mélanger dans plusieurs endroits, le centre-ville, et c'est un des rares centres-villes où qui ressemble à peu près à la population telle qu'elle est.
Belzunce-Noailles. Et rupture du jeune là-bas, c'est
et
bien.
Et à Marseille, disons que cette année, heureusement qu'il y a en tribune cette ferveur-là qui parfois ne trouve pas un écho sur les terrains à la hauteur de l'amour que les supporters expriment.
Juste une petite question en une seconde, parce que puisque vous êtes en contact avec le chef de l'État, y aurait-il moyen de contacter les Saoudiens pour mettre un peu d'argent à l'OM? Parce que on en a marre des Qataris au Paris Saint-Germain, on voudrait un petit équilibre en face.
Ouais, alors vous savez. Là-dessus, tout investisseur qui a beaucoup d'argent est bienvenu.
Il fait l'intermédiaire.
À l'OM, si ça permet de recréer une rivalité, disons plus digne de ce nom, en tout cas sur les terrains entre Paris et Marseille, j'y suis évidemment très favorable. Mais je crains que mon appel ne soit pas forcément hyper décisif en la matière ce matin sur vos ondes.
Alors, justement, semaine européenne, OM Benfica, le retour. Un pronostic, est-ce que l'OM, allez, on va terminer sur un petit rêve peut-être, une belle perspective, est-ce que l'OM peut se qualifier en Coupe d'Europe? Ça va pas trop bien dans le championnat domestique. Est-ce que sur la scène européenne,
on peut rêver.
On y croit très fort. Moi, je crois beaucoup à un 2-0. Voilà, je vous le dis. On a un affront à laver. On a tous en tête la main de Vata en demi-finale en 90.
Premier traumatisme, qui nous avait privé de finale de Ligue des Champions.
Alors, moi, j'avais 2 ans à l'époque, donc c'est un traumatisme que j'ai vécu plutôt en différé en la matière. Mais derrière, on a un boulevard. Hein. En demi-finale, potentiellement, c'est l'Atalanta Bergame qui a gagné 3-0 à Liverpool et qui est une équipe évidemment respectable, mais quand même jouable. Et ensuite, en finale,
tout est possible.
Quand la petite musique retentit, entre Leverkusen en Coupe d'Europe.
Leverkusen, ils ont déjà gagné un titre,
donc ils seront fatigués.
Ça te fait plaisir de parler de Coupe d'Europe, Kim ?
Ah bah oui, avec cette ambiance derrière là du Vélodrome, on est pas mal. Bon, en tout cas, merci à vous, messieurs.
Merci Mathieu Mocor.
Merci de m'avoir accueilli ce matin.
7h-10h, la matinale avec Kim sur Beurre FM.